Juan Pablo, por favor, saludemos al secretario general de Reporteros Sin Fronteras. Él se llama Chris Deloar. A propósito del balance de el ranking de los países donde a Colombia le va muy mal en libertad de expresión, quisiera preguntarle al señor Deloar cómo se cruzan o qué números se cruzan para llegar a este ranking en donde Colombia pues está en un lugar muy penoso, lugar 134 de libertad de expresión. Nosotros sentimos que en Colombia hay libertad de expresión, pero lo hablamos desde la comodidad de una empresa como la nuestra, de una ciudad capital, de una ciudad intermedia. Me imagino que no pueden decir lo mismo colegas que están en zonas apartadas del país, pero también qué tanto pesan los hechos de violencia en donde terminan afectados los periodistas o sus medios de comunicación. Pregunta concreta, ¿cómo se arma la ecuación, Monsieur Calvás?
Monsieur Christophe Deloire, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio.
Bonjour.
Bon, tout d'abord, mon collègue voudrait savoir comment est construit ce classement sur la liberté d'expression que, dans le cas de la Colombie, nous met dans la place numéro 134. Comment se fait cette équation pour arriver à ce classement-là?
Ben, c'est un travail, en fait, qui est le fruit d'activités toute l'année dans l'ensemble du monde, où nous étudions 180 pays. Avec des experts, nous diffusons un questionnaire en ligne qui est diffusé dans plus de 20 langues, avec un peu plus d'une centaine de questions, et auxquelles ces experts indépendants, différents en fonction des pays, répondent. Toute l'année aussi, à Reporters sans frontières, nous relevons le nombre d'exactions, de violations des droits de la presse qui sont commis dans les différents pays. Et à la fin, de l'ensemble de ces informations, donc de nature qualitative et quantitative, nous tirons ce classement. 180 pays dans le monde sont classés. Je connais essentiellement des pays dans lesquels les gens s'étonnent que leur pays ne soit pas mieux classé. Et donc la Colombie, sans doute, ne fait pas exception.
Bueno, pues nos dice que es un trabajo fruto de la actividad que se hace a lo largo de todo el año por parte del equipo de Reporteros Sin Fronteras en 180 países, con expertos a quienes se les envía un cuestionario en línea con más de un centenar de preguntas, expertos independientes que responden a estas preguntas que ayudan a generar una primera fotografía, pero además miembros del equipo de Reporteros Sin Fronteras que están en terreno constantemente están reportando hechos de violación contra la libertad de expresión que también terminan sumándose a esta clasificación, lo cual termina dando unos indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten llegar entonces a este listado en donde, como nos ocurre en el caso de Colombia, pero nos dice pasa con muchos otros países, terminan en varias ocasiones quejándose los habitantes de otros países diciendo es que me sorprende que nos haya correspondido esa ubicación. Es el caso de Colombia.
Sobre la situación particular de los periodistas, Juan Pablo, me gustaría preguntarle a nuestro invitado, ¿a qué cree que se debe que en este balance anual que recientemente dio Reporteros Sin Fronteras tengamos un aumento de 20% de periodistas encarcelados? Las cifras son 488, Juan Pablo, y es una cifra pues que no se veía desde que Reporteros Sin Fronteras empezó este balance en 1995.
Comment peut-on expliquer ce chiffre qui est vraiment étonnant, l'augmentation du 20% des journalistes qui sont emprisonnés? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde pour voir une situation comme celle-là?
La première leçon, c'est que le nombre de détenus dans beaucoup de pays n'a pas diminué malgré les nouvelles technologies. Les violations classiques des droits des journalistes demeurent et peut-être sont accentuées par les possibilités même qu'offrent les nouvelles technologies. Et puis la seconde chose, qu'il y a une telle augmentation cette année de 20% effectivement et 488 journalistes en détention au moment où nous parlons, c'est une forme de record. C'est lié à trois pays, où il y a eu une augmentation faramineuse au territoire de Hong Kong, en Chine, avec l'application de la loi de sécurité nationale, à la situation en Birmanie, après le coup d'État, le retour de cette junte absolument terrifiante en Birmanie, et puis à cause de la répression après la présidentielle au Bélarus, où de nombreux journalistes ont été mis en détention, et notamment des femmes, et qu'il y a de particulier au Bélarus, tout près de la Russie, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de femmes journalistes en détention que d'hommes, et ça c'est une exception.
Bueno, pues nos dice que sí, una de las primeras conclusiones que se saca de este estudio es que el número de periodistas detenidos en el mundo no disminuye. Y este es tal vez el ejemplo clásico de violación de los derechos a la información y a los periodistas y de los periodistas. En este 2021, 488 periodistas se encuentran privados de su libertad por ejercer su profesión. Y nos dice él que la cifra, este incremento del 20%, se da particularmente por lo que ha ocurrido en tres países. Por un lado, en Hong Kong, de la mano de China y la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que ha llevado a la detención de muchos periodistas. En Birmania, con el golpe de Estado y regreso de la Junta Militar, que también ha generado pues un eco negativo sobre el periodismo. Y finalmente, nos dice él, luego de las elecciones en Bielorrusia, el encarcelamiento de muchos periodistas, y llama la atención sobre el hecho de que sean particularmente periodistas mujeres las que en este país sean quienes terminan detenidas, privadas de su libertad por ejercer su trabajo.
Volviendo a Colombia, ¿cuáles son las mayores preocupaciones para el ejercicio del periodismo en nuestro país?
Retournons à la Colombie. Quel croyez-vous est le plus grand danger, le plus grand obstacle pour exercer le journalisme en Colombie?
De notre point de vue, il y a deux grandes catégories d'obstacles en Colombie qui expliquent que la Colombie se trouve à la 134e place au classement mondial de la liberté de la presse. Un, c'est le danger physique pour les journalistes, les agressions, les menaces de mort, les assassinats, qui font du pays malheureusement encore l'un des plus dangereux pour la presse. On sait que la couverture de sujets tels que l'ordre public, les conflits d'armées, la corruption, la collusion entre les politiques et les groupes armés illégaux, ou encore les problématiques environnementales, ce sont des activités journalistiques qui sont accompagnées de pression, d'intimidation, de violence. Et puis le deuxième point, c'est le fait qu'en Colombie, les médias sont étroitement liés à des empires économiques et à la classe politique qui mettent en danger leur indépendance éditoriale et renforcent l'autocensure.
Bueno, pues nos dice que esencialmente en Colombia son dos grandes categorías de obstáculos, que son los que terminan ubicando al país en este lugar número 134. Por un lado, el peligro físico, agresiones, amenazas de muerte, incluso asesinatos, son los que ponen en riesgo el ejercicio del periodismo en el país. Y aquí hay que hablar no solamente de los grupos armados ilegales, sino incluso de aquellas agresiones que se dirigen a personas que ejercen un periodismo, como por ejemplo el medioambiental. Y en la segunda categoría por la cual ellos ubican a Colombia en esta posición, es porque los grupos de medios están muy, muy ligados a grandes grupos económicos o están vinculados seriamente a algunas líneas políticas, lo cual hace que la libertad de expresión pueda verse comprometida.
Sí, me llama la atención la situación de las mujeres periodistas. ¿Son asesinadas o amenazadas por el hecho de ser mujeres?
On voudrait s'arrêter un petit peu au sujet des femmes qui exercent le journalisme. Est-ce qu'elles sont en plus grand risque même d'être assassinées par le seul fait d'être une femme?
Alors nous n'avons pas établi un tel résultat, mais ce qui apparaît, c'est que le nombre de femmes journalistes assassinées s'est accru au fil des années. notamment dans des pays comme l'Inde, il est de plus en plus dangereux d'être une femme journaliste, quels que soient les sujets sur lesquels on enquête, mais évidemment, le danger est aussi pour tous ceux, hommes ou femmes, qui enquêtent sur les sujets du droit des femmes. Et donc, il y a une forme de double danger lié à cette question des discriminations entre les hommes et les femmes, les attaques perpétrées contre les femmes journalistes et les attaques perpétrées contre tous ceux qui évoquent la situation des femmes dans des pays où évoquer les discriminations à l'encontre des femmes relève de briser des tabous.
Pues nos dice que aunque no han establecido, digamos, unos elementos claros para poder hacer una evaluación profunda al respecto, sí puede concluir que, número uno, el número de mujeres víctimas de periodistas víctimas de hechos violentos ha crecido. Nos da un ejemplo, por ejemplo, en India se ha vuelto cada vez más y más peligroso para las mujeres ejercer el periodismo. Pero nos dice él, el riesgo también es para los hombres, hombres y mujeres que trabajan temas periodísticos que tienen que ver con los derechos de las mujeres en países donde estos no están garantizados, están en riesgo. Y por eso nos dice, no solamente se quedaría con las mujeres, sino también hombres haciendo este tipo de periodismo. Yo quisiera volver sobre la segunda parte de la respuesta que nos dio respecto a la realidad en Colombia, porque habla él de los grupos económicos y políticos que pueden ejercer algún tipo de presión sobre los medios. ¿Eso ellos lo establecen por la evaluación de los expertos o por la evaluación de contenidos de los medios? Toda vez que puede haber medios que están vinculados con grandes grupos económicos, pero que no necesariamente están ejerciendo algún tipo de censura o autocensura. Monsieur Deloire, je voudrais m'arrêter sur la deuxième partie de votre réponse au sujet de ce qui se passe en Colombie. Parce que vous parlez que, vous avez dit que les médias sont très souvent liés à des grands groupes économiques qui pourraient d'une ou d'autre façon faire que le journalisme ne puisse pas être exercé d'une manière tout à fait transparente. Cependant, est-ce que c'est une conclusion à laquelle vous arrivez selon une évaluation des contenus, de ce que l'on écrit, de ce que l'on dit, ou c'est d'après ce que vous disent les experts, parce que il peut y avoir des médias qui sont liés à des grands groupes économiques, mais dans lesquels il n'y a pas de censure.
Absolument. La question, c'est celle de l'indépendance éditoriale. Et en fonction des groupes de médias, l'indépendance vis-à-vis des propriétaires est bien ou mal sécurisée. Mais ce qu'on observe dans l'ensemble du monde, et on l'a écrit dès 2016 dans un rapport qui était intitulé « Médias 2. Les oligarques font leur shopping », c'est que dans l'ensemble du monde, des oligarques, des hommes d'affaires, des groupes d'intérêts, des groupes industriels rachètent des médias, parfois pour les sauver, mais le plus souvent pour les utiliser comme des outils d'influence. Et l'enjeu, parce qu'il faut bien un propriétaire aux médias, mais l'enjeu, c'est qu'il y ait des garanties d'indépendance éditoriale. Et malheureusement, très souvent, dans les législations nationales, ça manque beaucoup. On a besoin de dispositions favorables à l'indépendance éditoriale dans le cadre de régulation, dans la législation, mais aussi dans les processus internes des journaux.
Bueno, pues nos dice que claro, es que aquí el tema es la independencia editorial de los medios y eso por supuesto sí cambia en función de cada uno de los medios de comunicación, porque hay algunos que tienen una independencia bien garantizada mientras que otros no la garantizan de tal manera. De hecho, nos devuelve a un informe que se hizo por parte de Reporteros Sin Fronteras que se tituló Medios, los oligarcas hacen shopping o se van de compras, y lo que buscaban demostrar en ese informe es cómo grupos económicos o personas muy ricas terminan comprando medios de comunicación. Sí, puede ser para salvarlos, pero también puede ser para utilizarlos como herramientas para ejercer influencia o algún tipo de poder en el país donde están implantados. Entonces nos dice él que aquí el tema tiene que ir un poco más allá, y es cuáles son las garantías de independencia editorial que se están dando al interior de los medios de comunicación discriminación o que incluso se está dando a través de la normatividad de los países. Considera él que tiene que darse un proceso de regulación, tanto a nivel nacional como interno en los medios, para poder garantizar la independencia informativa más allá de esos grupos económicos que pueden ser los propietarios de los medios de comunicación.
Me gustaría saber si han conseguido separar muertos y también periodistas muertos y también presiones o detenciones, los que trabajan en medios tradicionales y los que trabajan en medios en línea. Es decir, si hay alguna diferencia y si alguno de esos sectores se ve más presionado por o la política, las empresas, las detenciones o incluso los asesinatos.
Est-ce que vous avez séparé dans votre rapport annuel ce qui se passe avec les journalistes qui travaillent dans des, disons, des médias traditionnels face à ce qui se passe avec les journalistes qui travaillent dans des nouveaux médias, des médias online, en ce qui concerne les détentions, les assassinats, est-ce qu'il y a une différence entre les uns et les autres? Est-ce que l'on peut dire qu'il y a des journalistes qui sont plus ciblés que d'autres en dépendant de le média, les supports qu'ils ont?
Dans les chiffres que nous venons, nous agrégeons les données des journalistes professionnels, salariés de médias, et des journalistes non professionnels, mais qui sont des journalistes qui, à notre sens, méritent d'être reconnus comme tels, vu la qualité de leur travail et vu qu'ils mettent vraiment en œuvre des méthodes journalistiques. Pour nous, aujourd'hui, les considérations de statut, elles sont moins importantes qu'autrefois. Non, je n'ai pas de données spécifiques à vous donner sur telle ou telle catégorie de journalistes. L'enjeu pour nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où, de plus en plus, on vit face à des médias de communication, de propagande, qui travaillent pour, alors qu'ils ne sont pas, à notre sens, des médias de journalisme, mais qui sont des outils de communication pour des entreprises, pour des groupes religieux, pour des partis politiques, etc. Et qu'on a besoin d'un pluralisme avec des gens indépendants qui mettent en œuvre des méthodes professionnelles avec des règles éthiques. Et que c'est ça le journalisme. Au fond, la vocation des journalistes, c'est d'être des tiers de confiance des sociétés. C'est ça qu'il faut sécuriser.
Pues nos dice Rafael que en el listado y en el balance que ellos hacen incluyen periodistas profesionales, asalariados de los grandes medios de comunicación, pero también algunos no profesionales que no necesariamente están en grandes medios, pero que sí merecen ser reconocidos como periodistas que trabajan con ciertos estándares y parámetros éticos que corresponden al equilibrio y digamos a unas ciertas reglas periodísticas. Nos dice él que el tema del estatus de los medios hoy por hoy es menos importante que en el pasado. Lo importante que es o cuál es el reto en este momento, entender que estamos en un mundo en donde hay medios de comunicación que se convirtieron en medios de propaganda. Entonces son medios que le hacen propaganda a ciertos grupos empresariales o a ciertos grupos religiosos o a ciertos partidos políticos, y ellos no consideran que estén cumpliendo, desde la perspectiva de Reporteros Sin Fronteras, a las reglas éticas que corresponden al periodismo, unas reglas de equilibrio y que van más allá de simplemente estar trabajando en un medio de comunicación. Cuando ellos se preocupan por los periodistas, se están preocupando por aquellos que están buscando hacer ese periodismo que no está favoreciendo a nadie, sino que al contrario busca informar siguiendo unos parámetros éticos definidos para el periodismo en términos generales.
Me gustaría ahora tocar la situación de los periodistas asesinados. En este año, Juan Pablo, al 1 de diciembre, Reporteros Sin Fronteras cuenta 46 periodistas que han muerto por ejercer su profesión. Y pues México sigue siendo uno de los países más peligrosos para la prensa, con 7 periodistas asesinados. Me gustaría preguntarle si en algún momento algún gobierno de México ha tomado cartas en el asunto con Reporteros Sin Fronteras, porque pasan los gobiernos de diferente símbolo político, Juan Pablo, y la situación de los periodistas en ese país sigue siendo alarmante.
Monsieur Deloire, maintenant on va parler au sujet de ce qui se passe au Mexique, parce que dans votre rapport, on parle de 7 journalistes assassinés dans ce pays en 2021. Et ma collègue a une préoccupation, et c'est le fait que c'est un chiffre qui se donne presque toutes les années avec les journalistes qui sont en danger, qui sont assassinés. Est-ce que avec le gouvernement présent ou peut-être le gouvernement passé au Mexique, vous avez eu la chance de parler au sujet de ce qui est en train de se passer avec les journalistes là-bas afin de chercher une solution ou une sortie à cette menace constante?
Oui, bien entendu, on échange avec les autorités, comme on l'a fait d'ailleurs avec les autorités colombiennes. Moi, j'étais venu en Colombie voir le président Santos il y a quelques années. Au Mexique, le problème, c'est qu'il y a un taux d'impunité pour les crimes commis contre les journalistes qui est faramineux. En gros, ceux qui assassinent les journalistes sont très rarement condamnés. Et ça ne change pas. Malheureusement, il n'y a pas d'amélioration de la situation. On est face à une espèce de bureaucratie, à la fois pour les mécanismes préventifs de protection des journalistes, pour aussi l'élucidation lorsque des crimes sont commis. Moi, je vais juste vous raconter une anecdote. J'étais allé il y a quelques années au Mexique pour rencontrer le procureur spécial, le chef du parquet spécial, fiscalier spécial sur les crimes commis contre les journalistes. Et je lui avais demandé combien son parquet spécial avait élucidé d'affaires. Et il m'avait répondu une affaire. Et je lui avais demandé quel dossier. Et il m'avait répondu « Ah, je me souviens plus du nom ». Alors que c'était un procureur qui était chargé à plein temps de ces questions. Donc c'est dire le sérieux avec lequel il prenait ça. Bon, depuis, ça n'est plus le même procureur. Malheureusement, il y avait un manque de volonté politique et je dirais de volonté de l'administration elle-même extrêmement bureaucratique.
Monsieur Deloire, merci bien de nous avoir accompagnés ce matin sur la W Radio. Une bonne journée à vous et bonne année.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. Bueno, pues nos dice Florencia que sí, que con las autoridades mexicanas, así como con las autoridades colombianas, hay un intercambio constante. Recuerda que él estuvo en una reunión en Colombia con Juan Manuel Santos y que también en México él ha sostenido reuniones. Pero nos dice el problema de México es que hay una tasa de impunidad que es muy, muy elevada. Los crímenes contra los periodistas en muy pocas ocasiones llegan a una condena contra sus responsables y es algo que al pasar de los gobiernos no ha cambiado. Dice él que estamos enfrentando en el caso de México una burocracia gigantesca que además no avanza y no busca resultados cuando los crímenes ocurren. Y de hecho nos cuenta una anécdota personal. Estuvo en México hablando con un fiscal o procurador especial para los crímenes cometidos contra los periodistas y le preguntó, bueno, señor procurador, ¿cuántos crímenes han logrado ser resueltos por su trabajo de investigación? Y el procurador le dijo, no, uno, logramos resolver ya uno. Le preguntó el señor Deloire, ¿y de qué caso se trataba? Y el señor respondió, yo no me acuerdo del nombre. Dice nuestro invitado que eso muestra la falta de seriedad de un funcionario de este tipo, porque ¿cómo es posible que solamente resuelve un caso y ni siquiera recuerda el caso que logró resolver? No hay voluntad política, y por eso señala él que siguen dándose los crímenes contra los periodistas en México.